RCF.
Le grand témoin en région sur RCF. Thierry Georges.
Invité sur RCF, Isabelle de Châtelu. Nous enregistrons Isabelle dans les jardins du Grand Séminaire à Metz. Vous découvrez Metz, vous êtes venu pour présenter, pas que à des médecins, puisque c'est un rendez-vous européen qui est organisé ici à Metz, présenter Holy Games. Mais déjà, avant de parler de Holy Games, votre regard finalement sur Metz que vous découvrez.
Mais oui, j'ai un peu honte, c'est la première fois que je viens à Metz, habitant la région parisienne, quand je veux partir
déjà,
en vacances.
Mais déjà, vous dites Metz, c'est bien.
Quand je veux partir en vacances, je vais vers le sud, pensant qu'à Metz, il fait plus froid. Et là, on a un temps magnifique. En plus, le lieu qui nous accueille, c'est à 10 minutes de la gare. Honnêtement, je suis venue en très peu de temps. Et la prochaine fois, je viens en famille. Voilà.
Alors, vous venez pour un rendez-vous tout à fait original et une première à Metz, le premier congrès européen de la pastorale du sport. Et vous êtes venu apporter votre témoignage et votre vécu donc, de Holy Games au JO à Paris.
Effectivement, ça fait 3 ans que je porte ce projet qui est né 2 ans avant les Jeux Olympiques à l'initiative du diocèse de Paris et des évêques de France qui se sont dit on a un événement incroyable qui arrive en France. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que l'Église va pouvoir en faire? Quel regard on va poser dessus? Et moi, je suis une passionnée de sport. Je travaillais déjà pour l'Église. J'ai répondu à l'appel, j'ai répondu à une offre du diocèse de Paris tout simplement pour porter un projet Église et Sport. Je suis tombée dedans quand j'étais petite.
Dans les deux.
Dans les deux, vraiment, voilà, cette présence du Christ dans ma vie et puis la passion du sport. Hein, toute petite, quand il y avait un ballon, une balle, j'étais tout de suite attirée. Je suis allée assez vite dans les stades de foot, beaucoup. J'avais même parfois une difficulté à gérer cette passion du sport qui peut être un peu dévorante. Et du coup, ce projet vient à point nommé parce que c'est une manière aussi d'éclairer cet amour du sport, de peut-être l'apaiser, de lui trouver du sens. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont une addiction au sport. Donc voilà, il y a une réalité à accompagner. Comment ce monde du sport est accompagné par l'Église aujourd'hui?
Votre sport à vous, c'est le tennis?
Moi, c'est le tennis, mais j'aime beaucoup aussi le foot. J'aime bien quand il y a une balle, quand il y a un ballon. Voilà, j'aime le jeu. Mais oui, parce que je crois que ce qui me plaît beaucoup, c'est le jeu.
La compétition.
Oui, la compétition et puis le fait d'être à plusieurs. Non, dans le tennis, ce qui me plaît beaucoup, c'est la dimension psychologique. Voilà, c'est un sport qui est très difficile dans la tête. Parce qu'en fait, on va perdre 20 points avant d'en gagner peut-être 21. Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner.
Votre foi vous a-t-elle aidé dans le sport, dans votre pratique du sport?
Certainement, parce que la foi, elle donne la joie. Et c'est une des valeurs principales du sport. Le sport, c'est un lieu de joie. C'est le pape Jean-Paul II qui disait que le sport était un don de Dieu et que le sport était la joie de la vie. La joie avec un petit J, on sait bien quelle est la vraie joie dans nos vies. Mais je crois que oui, la foi a nourri ma pratique du sport. Et puis bien sûr, dans le sport, tout le paradoxe, c'est qu'on est face à un adversaire. Donc comment est-ce qu'on interagit avec son adversaire? Est-ce que c'est la haine ou est-ce qu'au contraire, c'est le respect? Est-ce que l'autre m'aide à grandir? Est-ce que l'autre me pousse dans mes retranchements de manière positive en fait? Est-ce qu'il m'aide à me découvrir moi-même?
J'allais vous poser la question, est-ce que votre foi vous a aidé à gagner, mais vous a peut-être aidé aussi parfois à perdre?
Oui, c'est surtout ça en fait. Je sais très bien que quand je faisais des compétitions de tennis, c'est difficile de perdre, moi j'aime pas perdre. Et donc quand on serre la main, on se dit tiens, en chrétien, comment est-ce qu'on serre sa la main? Comment est-ce que le Christ regardait ses adversaires? Et puis surtout, on se rend compte que le match a été beau si la personne en face, elle nous a donné du fil à retordre. Donc il y a quelque chose de très beau. Quand on fait des compétitions, il y a toujours après un verre, on partage. Voilà. Généralement, c'est celui qui a gagné qui invite celui qui a perdu. Et c'est toujours un beau moment. Donc ça nourrit la relation. Et la religion, c'est ça aussi, c'est de la relation à l'autre. Comment est-ce qu'on nourrit sa relation?
Concernant le lien Église et sport, on peut remonter jusqu'à Saint Paul, qui est invité à glorifier Dieu par son corps. Et puis l'autre, vous l'avez déjà cité, c'est Jean-Paul II, qui fut un pape sportif.
Oui, alors cette phrase de Saint Paul, glorifier Dieu par votre corps, elle est vraiment importante parce que malheureusement encore aujourd'hui, à parler des abus, et on se dit, mais comment se fait-il que cette religion de l'incarnation, elle abîme tant le corps? Et le sport est un lieu d'expression du corps. Notre corps, il est donné. Qu'est-ce qu'on en fait? Le sport est un lieu extraordinaire de glorification de Dieu. Quand on court vite, quand on saute, quand on court, il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose d'artistique aussi parfois. Si vous regardez le foot, moi, la victoire du PSG cette année, je trouvais que c'était éminemment beau à regarder ces joueurs ensemble. Donc oui, cette phrase de Saint Paul, elle nourrit beaucoup. Et puis Jean-Paul II, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'il a transformé le regard de l'Église sur le sport. Alors, historiquement, l'Église, elle a toujours accompagné le développement du sport. Au 19e, elle a contribué de manière incroyable au développement des patronages. Il y a plein de chrétiens qui sont à l'origine des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de football, etc.
Donc chrétiens, dont Pierre de Coubertin.
Exactement. Et puis Jules Rimet, qui a abouti à la Coupe du Monde de foot. Mais Jean-Paul II, il a posé un regard différent, c'est qu'il a dit, tiens, il faut que l'Église réfléchisse, qu'elle pense à ce qui se joue. Et il a autorisé, j'ai envie de dire, le développement de la pastorale du sport, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais il a quand même fallu attendre 2004, donc la fin de son pontificat, pour qu'il crée une section Église et sport au Vatican. Donc vous voyez, c'est vraiment très très récent, le fait que dans les dicastères du Vatican, il y a une dimension sportive qui a été introduite.
Mais dans le passé, c'est vrai, peut-être aujourd'hui encore, il y a des curés entraîneurs de foot, par exemple.
Oui, il y a des curés, j'ai vu à Marseille, là, un curé qui est entraîneur d'athlétisme. On a plein de curés qui font du rugby, qui font du foot. Donc moi, j'encourage même quand je rencontre des
bonnes sœurs aussi.
Vous
en avez vu jouer au foot ?
Dans notre équipe, on a une sœur italienne qui joue au foot, sœur Christiana. Moi, j'encourage souvent quand je rencontre des supérieurs de séminaire, je leur dis, mais il faut vraiment faire du sport à vos séminaristes.
Quand il y a encore des séminaristes, et suffisamment pour créer une équipe.
Maintenant, il y a un tournoi interséminaire depuis plusieurs années, un tournoi de foot. Et je sais que c'est une grande joie pour eux.
Ouais, parce que malheureusement, parfois dans les séminaires, on peut plutôt jouer au tennis qu'au foot. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, ils se retrouvent entre séminaristes une fois dans l'année. Et c'est une vraie occasion justement de joie, de rencontre. Cette année, ce sera à Rennes. Le tournoi interséminaire au mois de mai, c'est organisé par les séminaristes. Ils invitent aussi des jeunes pour que les jeunes puissent voir des prêtres, futurs prêtres en tout cas, qui jouent au foot, qui s'amusent, qui tapent dans un ballon. Et on a besoin aussi de voir ça. C'est vrai que la vocation à la prêtrise, elle est exigeante. Il est bon que les prêtres, futurs prêtres ou prêtres actuels pratiquent le sport. J'ai la joie de connaître pas mal de prêtres sportifs et je me dis souvent, tiens, peut-être que leur équilibre, ils le trouvent aussi dans le sport.
Vous citiez la pastorale du sport, donc initiée par Jean-Paul II. Enfin, c'est une jeune pastorale, finalement.
Oui, c'est une pastorale très jeune. Vous voyez, là, on est effectivement à Metz, qui est un des rares diocèses où il y a une pastorale du sport. Avant les Jeux Olympiques...
Avec un sportif.
Ah oui, avec un sportif qui a été en équipe de France. Voilà. Avant les Jeux Olympiques, il n'y avait que deux diocèses qui avaient une pastorale du sport. Donc, vous voyez, on part de très, très loin.
On est en Alsace-Lorraine. En Alsace, il y en a ?
Non. Mais pendant les JO, on avait 33 diocèses qui avaient un délégué JO. Donc quand même, les évêques ont vraiment pris conscience de ce qui allait se jouer. Voilà, il y a ce grand événement qui est arrivé en France, on ne va pas passer à côté. Donc ça a été l'occasion déjà de réfléchir, est-ce que je mets en place une pastorale du sport ? Alors pour certains, ça a été une petite parenthèse, mais nous on essaie justement de faire en sorte
de
que ça ne le soit pas.
Même après les JO, puisque Holy Games a été créé pour les JO de Paris.
Le grand témoin en région sur RCF.
7h41, suite de ce grand témoin sur RCF en Alsace-Lorraine avec Isabelle de Châtelu, fondatrice de Holy Games. Alors, Holy Games, vous avez répondu à un appel. Enfin, là, ce n'est pas un appel divin, c'est vraiment un appel pour une mission précise de créer Holy Games, sans que le nom soit trouvé quand vous avez commencé à réfléchir sur le sujet.
Effectivement, quand je suis arrivée en septembre 22, j'ai été recrutée. J'ai répondu à un appel où le projet s'appelait Catholympique. Et là, je me suis dit, aïe, 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 catholympique, ça veut dire
phosphoré, là.
On va faire du sport entre cathos. Et ça, c'est pas tellement ce que je voulais. Moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était justement que l'Église s'ouvre au monde. Du coup, le projet, on l'avait appelé en interne Église catholique et Jeux olympiques. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas, parce que Jeux olympiques, c'est une marque déposée du CIO. Et donc, on s'est très vite rendu compte que pour exister dans ce grand événement, il fallait notre propre marque. Voilà, on a pas mal réfléchi. Et puis, on a eu ce nom qui est venu. Ça fait pas mal de débats, parce que bien sûr, c'est en anglais. Holy Games, Jeux Saints. C'est un chemin de sainteté par le sport. Pourquoi on a choisi ? Parce qu'en français, on n'arrivait pas à le trouver.
En même temps, les Jeux Olympiques sont planétaires.
Et puis, il y avait plein d'étrangers qui étaient là. Et moi, je dois vous dire que pour avoir vécu ces Jeux sur le terrain, pour les étrangers, ça posait aucun problème. Holy Games, ils comprenaient tout de suite, c'est l'Église qui est là, présente dans le sport. Et aujourd'hui, on voit comme c'était une marque qui commence à être regardée à l'étranger. Ben voilà, à Los Angeles, les diocèses américains commencent à regarder pour faire Holy Games à Los Angeles.
Parce qu'effectivement, c'est en anglais, mais c'est Made in France. Ouais, Holy Games, c'est Made in France. Mais tout cela peut être multiplié dans un nombre très important de pays. Mais c'est vous qui avez la main là-dessus ? Vous l'avez déposé, Holy Games,
exactement,
j'imagine.
Exactement, c'est une marque qu'on a déposée au départ en France parce que le projet devait s'arrêter à la fin des Jeux. Et puis en fait, on a ouvert tellement de portes, on a rencontré tellement de sportifs qui nous ont dit, mais en fait, il faut continuer aussi tellement de personnalités aussi au Vatican, aussi au CIO qui nous ont dit, mais en fait, ce que vous avez fait, c'était étonnant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Comité international olympique avait une seule demande à Paris 2024, il faut une aumônerie. C'est une obligation quand on reçoit
donc
les
ça,
JO.
Ça, c'est dans le cahier des charges.
Il faut une aumônerie. Donc, on aurait pu
pour
se contenter...
Pour les cinq grandes religions, c'est ça.
Voilà, c'est un centre multiconfessionnel. Donc, on aurait pu se contenter, ce qui était déjà bien. C'était déjà un beau défi pour nous de monter cette aumônerie, parce que figurez-vous qu'on n'a pas d'aumônier du sport en France. Donc, il fallait trouver une quarantaine d'aumôniers du sport. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, présence d'église dans les JO, c'est pas être uniquement présent dans le village des athlètes, c'est ouvrir nos églises, c'est accueillir le monde entier. Voilà, on attendait 20 millions de personnes. En fait, c'est être là, présent, et puis annoncer le Christ, parce qu'on est convaincu que les valeurs du sport, les valeurs originelles, peut-être pas celles qu'on voit malheureusement quand on voit les dérives médiatiques, financières, etc. Les valeurs originelles du sport, elles sont magnifiques. Elles ont des liens évidents avec les valeurs chrétiennes, les vertus chrétiennes. On le disait, hein, d'ailleurs, c'est beaucoup de chrétiens qui ont contribuer au développement du sport, c'est bien parce que le sport porte en lui-même des valeurs chrétiennes. On s'est dit, il faut développer autre chose que juste une petite aumônerie fermée.
Mais si on reste dans l'idée de la petite aumônerie, en tout cas celle qui est destinée aux sportifs de haut niveau, aux athlètes, ça veut dire que ces athlètes ont besoin d'un soutien spirituel dans la religion qu'ils pratiquent à un moment donné au cours des JO.
On voit de plus en plus, si vous regardez un match de football aujourd'hui, j'ai regardé encore l'équipe de France cette semaine, ils vont se signer, ils vont prier. On sait que dans les vestiaires, il y a beaucoup de joueurs qui prennent un temps avant d'entrer sur le terrain pour prier. Il y a même des équipes de rugby qui prient ensemble. Alors, c'est le cas souvent à l'étranger, hein, mais on parle beaucoup d'accompagnement psychologique. On parle de détresse psychologique aussi, beaucoup des sportifs. Et on n'ose pas parler de la spiritualité, alors que quand même, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui donne sens à notre pratique. Surtout pour des sportifs de haut niveau, dont l'exigence de vie est dingue. Il faut voir que, on parlait un peu ensemble de tennis tout à l'heure, un joueur de tennis, il passe sa vie à l'hôtel, il n'est pas avec sa famille, il change de lieu tout le temps. On voit beaucoup de sportifs qui sont en burn-out ou en dépression, mais en fait, il faut qu'on prenne soin de leur âme. Voilà. Donc il y a une vraie soif.
Donc l'aumônerie, alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle a cartonné, mais elle a vraiment bien fonctionné pendant les JO.
Pas tant que ça, parce qu'en fait, on était au fin fond du village. Ça a été un enjeu de discussion, pas mal avec Paris 2024. On était très loin. Et ils n'ont pas été très communicants sur la chose, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas trop que ça figure dans les livrets, etc. Ça a été un vrai sujet de
Donc elle était un peu
discussion.
Dans une semi-clandestinité.
Non, elle était officielle, mais pas forcément très, très vue, très, très visible. Mais ça a été un très beau lieu, et surtout pendant les Jeux Paralympiques, où en fait, les sportifs ont beaucoup plus de temps. Donc la réalité, c'est que pendant les Jeux Olympiques, tout est minuté. Le village était quand même très grand. Il fallait au moins 20 minutes à pied pour aller au bout du village. Or, comme on était à une des extrémités, c'était difficile d'aller jusqu'à nous. Pendant les Jeux Paralympiques, les sportifs sont moins sous pression, ils ont un peu plus de temps, il y a eu plus d'échanges, plus de rencontres.
Et alors ça, c'est une partie de la vie de Holy Games pendant les JO qui a été ouverte vraiment sur tout le monde.
Pendant les JO, Holy Games avait plusieurs missions. Donc la première était spirituelle, avec cette aumônerie, et puis une messe d'ouverture des JO, avec des messes télévisées pendant tous les dimanches, avec un très beau temps interreligieux au cœur des JO également. Et puis on avait d'autres missions, une mission de solidarité. Voilà, au cœur de notre mission, on s'était dit comment faire pour que les Jeux soient une fête aussi pour les plus fragiles. Et donc, on a emmené des gens en situation de fragilité dans les stades. Qui n'y seraient pas allés. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a monté. Moi, j'avais eu une journée entière qui avait été montée avec une association de personnes en précarité. Où on était avec des personnes de la rue. On leur a dit, il y a les JO qui arrivent dans 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces JO? Il y a 2 choses qui sont sorties. La première, je me souviens d'une personne qui m'a dit, moi, j'ai juste envie de jouer à la pétanque ou au ping-pong avec toi. Donc on a monté un lieu, un QG solidaire, où tous les jours, on accueillait des assos avec des personnes en précarité pour faire du sport. Et puis il y a un autre qui m'a dit, avec des étoiles dans les yeux, moi je rêverais d'aller dans un stade, mais je sais que je pourrais pas. C'est pas possible. Et ben ça, on l'a fait. On a emmené plus de 1200 personnes au JO, pareil pour les Paralympiques. Et c'est ça qui est beau avec Holy Games, c'est qu'on recommence la semaine prochaine, match de foot avec le Paris FC. On va emmener des personnes en précarité dans les stades. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire.
Et là, vous continuez, on va en parler, parce que moi, je trouve cette idée vraiment très, très bonne, avec Paris Église Tour, mais ça peut se décliner alors partout en France, et puis partout où il y a des églises, ou d'autres sites religieux, bien évidemment. C'est Monseigneur Patrick Chauvet, qui est le curé de la Madeleine, qui dit, je le cite, « Je n'ai jamais vu autant de personnes courir pour aller à la messe ».
Oui, alors effectivement, la course des églises, c'est un événement qu'on avait organisé pour la première fois à l'occasion de la fête de la Saint-Denis. C'est une course qui avait relié le Sacré-Cœur de Montmartre à la Basilique de Saint-Denis. On était 600 participants en 2023. Et puis à la veille des Jeux...
Donc il faut grimper alors.
Oui, on descendait du Sacré-Cœur. Voilà. Et puis la veille des Jeux, on a, juste avant l'arrivée de la flamme sur le territoire, ça a été une course qu'on a organisée en disant on va s'échauffer avant l'arrivée de la flamme. On était 1200 participants. Et puis en 2025, on a réédité cette édition du Paris Église Tour, on était 3200. C'est une course incroyable qui, cette année, partait du parvis de Notre-Dame de Paris, passer par 10 églises pour arriver jusqu'à l'église de la Madeleine. C'est une course qui est ouverte à tous. Voilà, il y a des coureurs qui sont des aficionados qui s'entraînent pour le semi ou pour les marathons. Il y a des gens pour qui c'est leur première course. Moi, j'ai été très frappée. Il y avait une personne sourde, aveugle, muette qui a participé. Il y avait des personnes en geôlette. Il y avait des personnes en situation de précarité. C'était une course incroyable, mais avec une dimension spirituelle. Voilà. Il y avait la messe à l'arrivée pour ceux qui voulaient. Il y avait une bénédiction au départ aussi pour ceux qui le souhaitaient. Sur certains parvis, il y a des prêtres qui bénissent.
Et puis les coureurs peuvent être médaillés. Alors je ne sais pas s'ils sont d'or, d'argent ou de bronze, mais les médailles sont parfois celles de la Vierge.
Oui, on avait la chance cette année de passer devant la médaille miraculeuse, donc la chapelle à Paris. Et donc on remettait deux médailles à l'arrivée. C'est vrai que c'est important pour les participants. Aujourd'hui, on parle de la médaille du finisher, c'est-à-dire que tout le monde a sa médaille, même si on est le dernier, et c'est ça qui est beau. On mettait une médaille miraculeuse et puis la médaille du finisher habituelle.
Donc maintenant, il faut multiplier, réussir le miracle de la multiplication des églises tours en France.
C'est vrai que c'est un tellement bel événement que cette année, on va essayer de le déployer. Alors, on a proposé au diocèse de Nantes. Et puis on espère aussi peut-être sur Marseille. Et pourquoi pas d'autres là aujourd'hui, hein, je sens que...
Je pense que on pourrait l'envisager à Metz.
À Metz,
je ne peux pas parler pour nos amis en Alsace, Strasbourg bien évidemment aussi, ou Nancy, mais Metz se prêterait magnifiquement.
Oui, c'est une occasion incroyable de revoir notre patrimoine autrement. Et c'est ce que nous ont dit les coureurs, votre parcours il est extraordinaire en fait. On va d'une église à l'autre, on voit notre patrimoine autrement, les routes sont fermées pour nous.
Alors on peut dire, Isabelle de Châtelut, que l'église catholique et le sport sont réconciliés ?
J'espère pour la durée. Non, je suis sûre que... c'est une phrase de Saint Jean, « Que ma joie demeure ». C'est cette phrase qui m'habite moi depuis les JO, parce que j'ai un peu eu l'impression de vivre quelque chose du ciel pendant les JO, toutes ces nations rassemblées dans la paix, dans la joie. Et je pense que ce n'était pas une parenthèse.
Donc des Holy Games à Los Angeles, enfin, ou peut-être sur les JO d'hiver aussi, je ne sais pas, mais prochainement dans d'autres grandes messes sportives.
Pendant les JO de Paris, on avait un prêtre qui est venu passer une semaine avec nous, un prêtre de Los Angeles qui est venu passer une semaine pour voir ce qu'on faisait. Donc on est en lien avec eux. C'est même plus que probable qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là pendant les Jeux. Et puis on travaille déjà sur Alpes 2030. Voilà.
Ah oui, c'est ça.
La semaine prochaine, on a une première rencontre avec les diocèses, les quatre diocèses qui sont concernés par les Jeux d'hiver qui viendront. Ça va venir très vite. Hein.
Depuis les JO de Paris,
voilà,
vous avez un avenir olympique.
C'est une vie sportive et joyeuse.
Merci beaucoup Isabelle de Châtelut.
Merci Thierry.